Frères et sœurs, pour notre méditation ce matin, encore un texte de l'Évangile qui finit mal. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, que je vais vous lire cet enseignement que Jésus apporte, tout particulièrement à Pierre, mais aussi à nous-mêmes, bien évidemment. C'est au chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 21. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Un talent, c'est 1 kilo d'or. 10 000 talents, je vous laisse faire le calcul. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, agrandis ton cœur et patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 15 euros. Il le saisit, il commença à l'étrangler et lui dit « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le supplia en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Mauvais serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Plus exactement, je t'avais remis entièrement ta dette au moment où tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Dernière phrase charmante de l'Évangile. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Avant de nous plonger à corps perdu et à cœur éperdu dans ce texte biblique, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 83. Nous aurons l'occasion de chanter ce petit cantique familial que nous connaissons bien, « Toi qui disposes », les strophes 1, 2 et 3. Nous nous levons pour chanter. Thank you. Dieu notre Père, dont la parole s'est inscrite dans notre chair en Jésus-Christ, toi qui illumines le monde et son histoire afin que l'homme puisse croire et vivre en harmonie, suscite une réponse en nous. Ouvre notre oreille à cette voix qui retentit. Aide-nous à garder notre cœur ouvert pour accueillir ton évangile au milieu des paroles humaines. Chers frères et sœurs, voici certainement l'un des textes bibliques les plus riches d'enseignements au sujet du pardon, pardon qui va donc occuper notre méditation ce matin. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'un texte qui exposerait une méthode en matière de pardon, pas de recette de cuisine, mais un texte pour nous sensibiliser à l'importance du pardon dans la vie chrétienne. Tout commence par une question de Pierre, déjà comptable de l'Église avant l'heure, sur les limites du pardon. Ne pas trop en faire, de grâce. Combien de fois pardonnerai-je ? Et ce passage s'achève sur ce qui semble être finalement le terrible échec du pardon. Histoire qui se termine entre les mains d'un bourreau. Mais avant d'entendre l'enseignement de Jésus au sujet du pardon, il nous faut entendre son enseignement au sujet de ce qui rend nécessaire le pardon, à savoir le mal. Car bien entendu, la question du pardon ne se poserait pas s'il n'y avait rien à pardonner. Le pardon s'adresse au mal. Le mal qui prend des formes multiples dans ce texte. Il s'agit tout d'abord du péché, au verset 21, ce péché qui consiste à ne pas faire le bien qu'il aurait fallu faire, ou du moins à réaliser qu'il y a une distance entre ce que nous aurions pu, ce que nous aurions dû faire et ce que nous avons fait effectivement. Et puis dans la deuxième partie du texte, il s'agit d'une dette, d'argent qui évoque ce que quelqu'un a pris et n'a pas encore rendu. Cette image de la dette est tout à fait intéressante, et elle est finalement assez terrible, parce qu'elle exprime avec une précision redoutable l'effet du mal qui est susceptible d'être pardonné. Il y a bien sûr les petits malheurs de l'existence, quelqu'un qui nous double dans une file d'attente et qui prend notre place. Quelqu'un qui entre dans le métro avec un poste de radio et qui nous prend notre tranquillité. Mais évidemment, ces petits malheurs ne sont que broutilles au regard de ce qui occupe véritablement notre esprit lorsque nous réfléchissons à ce qu'est le pardon. Nous pensons à ces parents qui, par leur attitude nonchalante ou au contraire excessivement violente, ont volé la jeunesse de leur enfant. Nous pensons à ces criminels qui, volontairement ou non, en causant la mort d'une personne, ont ravi un être aimé par quelques-uns. Nous pensons bien évidemment aux crimes contre l'humanité qui, en quelques occasions, se sont commués en véritable organisation pour enlever au monde une culture, une population. Tout cela constitue des dettes. Tout cela constitue des situations où des personnes ont été prises à l'affection des leurs, au règne de la vie, ou tout simplement à la possibilité d'exister. Autrement dit, l'image de la dette dit juste, mais à condition de la considérer telle que ce récit biblique en parle, en gardant cet ordre de grandeur que j'ai évoqué durant la lecture, et qui nous donne un premier enseignement à tirer au sujet du mal. 10 000 talents, 10 000 talents qui sont 10 000 kilos d'or, et qui sont une manière d'exprimer la démesure de la dette. Il me semble qu'il y a là l'intuition selon laquelle il est finalement impossible d'évaluer le mal. Cette intuition selon laquelle le mal excède toujours ce qu'on peut en dire. Et finalement, pour nous, dans notre situation, 10 000 kilos d'or représentent une quantité inestimable d'argent. Et c'est à cela, bien sûr, que Jésus veut nous amener. Pierre, au moment où il interroge Jésus, vit dans l'illusion qu'il est possible d'évaluer le mal. Et s'il est possible d'évaluer le mal, dans ce cas, il est possible d'évaluer ce qui est nécessaire pour contrecarrer le mal. Mais la réponse de Jésus elle-même, en engageant Pierre à découvrir le caractère infini du pardon, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire une infinité de ce qui semblait déjà pour Pierre excessif, eh bien, Jésus nous invite à découvrir que, précisément, le mal n'est pas quantifiable. Ou pour être plus précis, le mal, ce n'est pas quelque chose qui serait objectif et qui pourrait être limité dans le temps, dans l'espace, dans notre raisonnement. Le mal, ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait observer et finalement délimiter, cantonner à une définition. D'ailleurs, et c'est là le deuxième enseignement précieux au sujet du mal, non seulement il n'est pas possible de le quantifier, et donc de pouvoir dire que ce mal est supérieur à un autre mal, mais il n'est même pas possible de le définir. Beaucoup s'y sont employés, rares sont ceux qui ont réussi à en dire quelque chose de juste. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a finalement tant de variations d'une personne à l'autre sur la définition du mal, et surtout sur ce que l'on peut en dire lorsque nous sommes ensemble confrontés à un mal unique, identique. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les auteurs bibliques eux-mêmes sont assez réticents à l'idée de définir le mal, d'en donner une définition théorique qui serait rigoureuse. À chaque fois, le mal est mis en récit, il est raconté, mais il n'est pas formulé dans une définition qui pourrait en quelque sorte le circonscrire. Pourquoi d'une personne à l'autre y a-t-il autant de variations sur l'importance que l'on donne à tel ou tel aspect du mal? Comme le relevait Jean-Pierre Denis dans son dernier éditorial du journal La Vie, n'est-il pas étonnant finalement de constater que les militants pro-life qui s'insurgent et qui militent contre l'interruption volontaire de grossesse, par exemple, ne protestent pas avec la même vigueur contre les drames de l'immigration en Méditerranée qui ont fait 1 500 morts depuis le début de l'année. Eh bien, l'une des réponses à cet étonnement, c'est probablement que le seul aspect du mal auquel nous avons véritablement accès, c'est le mal subi. Le mal que nous subissons, nous, personnellement. Le seul mal dont nous puissions vraiment parler, c'est le mal qui nous fait mal. C'est le seul mal dont nous nous sentons capables de parler parce que c'est le mal que nous éprouvons, non seulement intellectuellement, mais physiquement, existentiellement. Et c'est avec cette honnêteté que les textes bibliques abordent la question du mal, et même Pierre agite ainsi, c'est l'offensé qui parle. C'est celui qui a été offensé qui pose la question « Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Le mal subi. Non pas un mal théorique, le mal que je ressens, le mal dont je me considère victime. C'est à partir de ce mal subi que les textes bibliques réfléchissent. Ils réfléchissent à la question du pardon, d'abord parce qu'il faut avoir conscience du caractère incommensurable du mal. Ensuite, parce qu'il faut prendre conscience que le mal est l'affaire d'individus aux prises avec ce qui fait mal, pour comprendre que le pardon ne sera jamais que l'affaire d'individus directement concernés par la question du mal. Et c'est là l'occasion d'effleurer à peine, trop rapidement, le fait qu'on ne peut jamais pardonner à la place de quelqu'un d'autre. Le pardon concerne quelqu'un qui est directement affronté au mal. Alors à partir de là, à partir de ces deux constats sur le mal, nous pouvons essayer de nous mettre à l'écoute de Jésus, qui nous parle du pardon pour en tirer l'évangile qu'il essaie de faire retentir dans cette scène. À l'articulation du mal et du pardon, il y a donc l'individu. Ici, il s'agit d'un serviteur. Nous ne savons pas grand-chose de cet homme, sinon qu'il était on ne peut plus endetté et qu'il a été gracié. Et puis qu'aussitôt après, il n'a pas fait preuve de la même mansuétude à l'égard de quelqu'un qui lui devait une somme autrement moins importante, beaucoup plus modeste, une 15aine d'euros au regard de 1 000 000 d'euros. Nous avons un autre renseignement fourni par le maître lui-même qui le déclare « mauvais serviteur ». Cela est souvent compris comme une condamnation sans appel. Et au fond, c'est déjà ce qui avait retenti dans la parabole des talents. Mauvais serviteur. Il nous faut aujourd'hui prendre l'expression grecque à bras le corps. Parce que le doulé ponéré peut avoir ce sens de mauvais serviteur, mais ponéros, c'est aussi ce qui est en mauvais état. Un serviteur en mauvais état. Non pas forcément méchant, mais un serviteur en mauvais état. Malheureux serviteur, pourrions-nous traduire. Je pense qu'il faut maintenir les deux sens qui se combinent et expriment la vérité profonde de cet homme. C'est parce qu'il est malheureux qu'il commet le mal. Il est dans la peine et du coup, il cause de la peine autour de lui. Il n'y a pas là une sorte de justification à la clémence qu'il faudrait avoir envers tous ceux qui ont eu une jeunesse difficile ou qui ont connu quelques drames dans leur vie et qui pourraient donc commettre quelques crimes en toute impunité. Le pardon ne dispense pas d'exercer la justice. Le pardon ne remplace pas la justice. Et la justice ne dit pas qu'est innocent celui qui a commis un crime alors que dans sa jeunesse, il avait lui-même subi quelques crimes. Jésus nous met plutôt sur la piste de la raison d'être du pardon, qui n'est pas d'abord bénéfique pour celui qui est pardonné, mais pour celui qui pardonne. Le premier à bénéficier du pardon, c'est celui qui pardonne. Car en pardonnant, il se libère du mal subi. Ne pas pardonner, c'est maintenir les choses en l'état. C'est maintenir le criminel dans la posture du criminel. C'est maintenir la victime que je suis dans la posture de la victime. Et c'est donc maintenir la relation offenseur-offensée dans ce qu'elle a été et ce qu'elle sera donc encore. Cette façon de figer les choses est aussi une façon de figer le mal que je subis et donc de continuer à subir ce mal-là. C'est le sens de la finale de la parabole, je crois, qui cherche à nous faire comprendre qu'une mémoire sans pardon nous conduit tout droit en enfer. Parce que cela signifie que nous exerçons nous-mêmes une sorte de propension à vouloir maintenir la vivacité du mal que nous subissons. Et en quelque sorte, c'est le serviteur lui-même qui se met dans les mains du bourreau pour être perpétuellement torturé. Il faut donc comprendre que le pardon n'est pas d'abord une obligation morale ou religieuse. C'est plutôt une nécessité existentielle pour notre salut ici et maintenant. Une sorte d'hygiène de vie par laquelle nous évitons de nous condamner au malheur. Et par voie de conséquence, de faire rejaillir autour de nous ce malheur que nous subissons, de produire à notre tour un autre malheur. Hannah Arendt, pour sa part, écrivait ceci dans La condition de l'homme moderne, il faut que l'on pardonne, que l'on laisse aller, et c'est là l'une des traductions possibles pour le pardon, apodidomie, laisser aller. Il faut que l'on pardonne, il faut que l'on laisse aller, pour que la vie puisse continuer, en déliant constamment les hommes de ce qu'ils ont fait à leur insu. Alors bien sûr, me direz-vous, et quand le mal n'est pas fait à notre insu? Si le mal n'a pas été fait à l'insu de l'offenseur, comme c'est finalement le cas dans cette parabole, eh bien c'est le deuxième aspect qu'aborde ce texte biblique. Après avoir repris cette thématique biblique selon laquelle le pardon assume le fait qu'aucune réparation ne pourra jamais venir à bout du tort qui a été subi, et que la seule manière de ne pas en rester prisonnier et de laisser aller cette dette-là, il nous faut aborder la question du pardon dans le cas où il a été commis en toute conscience. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui commet le mal sans l'avoir fait vraiment exprès, nous sommes assez enclins à pouvoir lui pardonner. Sauf que dans ce cas, il ne s'agit pas de pardon, il s'agit d'excuses. Il faut commencer par relativiser cette notion de toute conscience. Car je crois qu'il serait assez illusoire de penser, de considérer que nous agissons en ayant pleinement conscience de toutes les conséquences de nos actes. Des effets, notamment symboliques, nous échappent toujours. Nous n'avons pas la maîtrise totale des événements, y compris des événements dont nous sommes particulièrement acteurs. Ce que nous faisons nous dépasse toujours. Ce que nous disons nous dépasse toujours. Et nos pensées ne cessent de transpirer à travers toutes les pores de notre peau. Néanmoins, ne relativisons pas à outrance. Et attachons-nous à la seule question qui, en vérité, nous intéresse vraiment. Y a-t-il de l'impardonnable? Y a-t-il des offenses qui soient graves au point que le pardon ne soit pas possible? Évidemment, lorsque nous ouvrons cette boîte, nous l'envisageons en particulier lorsque le crime est de refuser à une personne le droit de vivre. Car il s'agit d'un crime contre la vie elle-même, il s'agit d'un crime contre l'existence qui englobe largement le crime contre l'humanité. Au fond, la seule question qui nous intéresse vraiment et à partir de laquelle nous pouvons vraiment réfléchir sur les soucis de la vie quotidienne, c'est celle-ci. Y a-t-il de l'impardonnable ? Alors évidemment, on ne peut pas ne pas convoquer Vladimir Yankelevitch et son texte intitulé « Pardonner » qui est consacré aux suites à donner à la Shoah. Il commence par renverser la phrase bien connue de Jésus sur la croix, en référence à la question du mal fait à notre insu. « Seigneur, écrit-il, ne leur pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font. » Après avoir considéré les Allemands comme portant une responsabilité collective à l'égard de la Shoah, par un regard sur l'histoire qui n'appartient qu'à lui, il entame son réquisitoire contre la possibilité d'un pardon en ces termes. Qu'un peuple débonnaire ait pu devenir ce peuple de chiens enragés, voilà un sujet inépuisable de perplexité et de stupéfaction. On nous reprochera de comparer ces malfaiteurs à des chiens. Je l'avoue, en effet, écrit-il, la comparaison est injurieuse pour les chiens. Et il poursuit un peu plus loin, le pardon. Mais nous ont-ils jamais demandé pardon ? Quand le coupable est gras, bien nourri, prospère, enrichi par le miracle économique, le pardon est une sinistre plaisanterie ? Non, le pardon, écrit-il, n'est pas fait pour les porcs et leurs truies. Le pardon est mort dans les camps de la mort. Fin de citation. Cela pose question, je trouve. Le pardon ne serait-il destiné justement qu'à ce qui est excusable ? Le pardon, au contraire, ne serait-il pas destiné justement à ce qui n'est pas excusable ? Plus que cela, le pardon serait-il encore vraiment le pardon s'il était soumis à quelques conditions, comme la demande de pardon, par exemple, ou un acte de repentance de la part de l'offenseur ? Considérons que le pardon est à l'épreuve de l'impossible, comme l'atteste le caractère infini de l'exhortation adressée à Pierre, mais aussi la valeur de la dette remise au serviteur. Pour ma part, j'entends un écho de cela dans la compréhension du pardon chez Jacques Derrida, qui, dans une conférence sur l'impardonnable donnée à Jérusalem, dans un lieu hautement symbolique, disait que le pardon s'adresse précisément à l'impardonnable, ou qu'il n'est pas. On ne peut ou on ne devrait pardonner, il n'y a de pardon que là où il y a de l'impardonnable. Impossible pour un individu ordinaire comme vous et moi, en tous les cas surtout moi, de rembourser des millions d'euros. Impossible de réparer un crime contre l'humanité. Ici, Jésus pose le pardon comme inconditionnel et sans restriction. Il ne présuppose pas une demande de pardon. Le serviteur se contente de demander un échelonnement de sa dette. Il ne demande pas une remise de dette. Par ailleurs, cette remise de dette ne concerne pas seulement une partie de la dette, la partie qui serait finalement assez modeste, une partie que l'on serait prêt à rembourser. La partie facile, l'intégralité de la dette est remise. Pas simplement les petits crimes, l'ensemble. Pas simplement les petites exactions, l'ensemble. Alors évidemment, face à cette exigence, nous sommes aussi prompts à résister que les serviteurs de la parole, de la parabole le furent à réclamer vengeance. Le pasteur Paul Vergara, qui sauva une soixantaine d'enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, déclara du haut de cette chaire, ici même, et au sujet de ce texte biblique précisément, le 25 février 1945, date intéressante par rapport à la chronologie des événements, je cite, « Il ne fait pas de doute que l'enseignement de Jésus sur ce point est formel. D'homme à homme, le pardon est un devoir illimité pour le chrétien. Dieu ne peut pas en Jésus nous demander le pardon illimité s'il devait être lui-même limité dans le sien. S'il devait y avoir dans nos fautes un maximum au-delà duquel la grâce de Dieu nous serait refusée. Nous comprenons que la seule limite au pardon de Dieu, c'est nous qui la fixons. Quand nous sommes limités nous-mêmes dans notre générosité envers ceux qui nous ont offensés. Voici, me semble-t-il, de quelle manière l'Évangile résonne. Il résonne dans ce pardon originel de Dieu, qui nous rend capables à notre tour de pardonner. Le pardon originel de Dieu qui, évidemment, supplante cette idée non biblique de la faute originelle, du péché originel. L'Évangile résonne aussi dans notre responsabilité à pardonner à notre tour pour que le pardon de Dieu soit vraiment libérateur, pour que nous puissions bénéficier des effets de ce pardon. Parce qu'évidemment, si à notre tour nous ne pardonnons pas, cela signifie que nous bloquons toute cette dynamique de vie que Dieu essaie d'engager à travers nous. Quand un offensé reste sans pitié, au fond, il reste soumis au mal qu'il a subi, et il reste soumis au malheur de la vengeance. La grâce de l'Éternel, c'est un pardon possible, un pardon praticable, un pardon que l'on peut mettre en œuvre, un pardon qui nous fait du bien, un pardon qui permet aussi de faire échec au mal. Amen.